Toute cette semaine, Joël Gayot rencontre Pierre Berger. Ce soir, l'art de l'amour.
Bonsoir Pierre Berger et mille merci de nous recevoir pour ces avenues qui vont nous réunir chaque soir de la semaine. Vous êtes né entre deux guerres le 14 novembre 1930 sur une île qui sait accueillir la lumière, c'est à Oléron, au large des côtes atlantiques, en face de La Rochelle, que vous avez vu le jour. 85 ans ont passé, vous nous accueillez à Paris dans la fondation que vous avez bâtie, qui porte votre nom, accolé à celui de l'homme que vous avez aimé et que vous aimez encore, Yves Saint-Laurent. Dans ces 85 ans, Pierre Berger, on voudrait se plonger tête la première, tant il recèle d'histoires dont chacune pourrait nous occuper des heures durant, d'Yves Saint-Laurent à François Mitterrand, de Jean Giono à Jean-Louis Barrault, de la mode à la peinture, du théâtre à l'opéra, de la lecture à l'écriture, de la France au Maroc, de la politique à la presse, du militantisme au mécénat, du bonheur au drame, du désir à son accomplissement, de la vie à la mort. Il me semble, Pierre Berger, que vous n'avez cessé de tendre des fils comme Arthur Rimbaud, qui tendait des cordes de clocher à clocher, puis danser. Vous avez bel et bien dansé votre vie, vous l'avez même swingé, mais ici, dans ce bureau, nous allons freiner le rythme, prendre le temps d'observer d'un peu plus près les clochers et ces cordes qui les relient entre eux. Alors pour ouvrir cette série d'entretiens, je vous propose une première halte et je l'ai appelée « L'art de l'amour ». Sur Twitter, vous êtes très actif, Pierre Berger. Vous avez retweeté le mot de quelqu'un qui vous suit. Vous avez beaucoup de gens qui vous suivent. Il n'y a pas loin de 35 000 abonnés au compte de Pierre Berger. Cette personne écrit « Yves Saint-Laurent et Pierre Berger sont définitivement ma définition de l'amour ».
Je ne sais pas si c'est exact, mais le fait même que quelqu'un le pense et pris la peine de tweeter cette appréciation m'a touché beaucoup.
Quelle serait votre définition à vous de l'amour ?
Il y a beaucoup de définitions de l'amour. La mienne n'est pas égoïste. L'amour, c'est aimer l'autre. Pas seulement que l'autre vous aime. C'est aimer l'autre. Pour moi, c'est très important. Très important de sentir que vous êtes utile à l'autre, que vous êtes indispensable à l'autre.
Si l'amour était un art, puisque j'ai appelé cette émission l'art de l'amour, quel art serait-il ?
Moi, j'avais écrit un livre qui s'appelle « L'art de la préface ». Donc, l'art de l'amour me va très bien parce que toute tentative de ce genre, tout essai, c'est un art, bien sûr. Bien, il y a l'art de la guerre. Et l'art de l'amour n'est pas très éloigné de l'art de la guerre.
Et on peut dire que vous avez connu et la guerre et l'amour et que les deux se sont mêlés ?
Les deux se sont mêlés. L'amour dans la guerre dans l'amour, oui. Mais je ne sais pas s'il faut être à Clausewitz de l'amour. C'est une autre question, ça. Je ne sais pas combien on a de divisions à engager dans ce combat. Mais enfin, il faut s'engager dans l'amour sans arrière-pensée et sans calcul. Puis il faut tout donner dans l'amour. Tout. C'est un peu mélo ce que je viens de dire. C'est un peu chanson d'Edith Piaf. Mais c'est comme ça que ça marche. Si vous ne faites pas ça, ça ne marche pas. Il faut s'y engager en y croyant, en imaginant que l'impossible devienne possible. Et puis parfois ça marche.
Est-ce que vous connaissez ce texte de Bernard-Marie Coltès, puisque nous avons, vous et moi, en commun une même passion qui est le théâtre, qui est dans la solitude des champs de coton et qui démarre par la phrase suivante « Si vous passez par ici, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose, et ce quelque chose, moi, je peux vous le donner. » Parce qu'il me semble que l'amour, on peut aussi le trouver déclenché de cette manière-là.
Écoutez, on ne cherche jamais que ce qu'on va trouver. C'est évident, ça. Est-ce qu'on le trouve chaque fois ? C'est pas sûr. Mais il est certain que si on ne le cherche pas, on ne le trouvera pas. Vous me direz qu'il y a le coup de foudre. J'en sais quelque chose et on en parlera. Parce que ça fait partie de l'amour aussi. Comment l'amour s'arrête-t-il ? Comment en arrive-t-on à cesser d'aimer quelqu'un ? Comment en arrive-t-on à pouvoir, alors qu'on ne pouvait plus pas respirer ni vivre si ce partenaire ou cette partenaire n'était pas là, tout d'un coup, on cesse de l'aimer. Bien sûr, on aime toujours, mais on parle d'amour, de vrai amour avec des majuscules. Après, ça devient de l'amour, mais on n'emploie plus de majuscules. Alors, c'est bien différent. Comment est-ce que ça se fait? C'est un mystère. Et même moi, aujourd'hui, je vais vous dire, il y a très longtemps, 58 ans, que j'ai quitté mon premier amour. Il s'appelait Bernard Buffet. Et je l'ai quitté pour partir avec Yves Saint-Laurent, avec lequel j'ai vécu 50 ans. Mais même aujourd'hui, au moment où je vous parle, et alors que cette histoire est, ou devrait être, très loin derrière moi, je me demande comment j'ai pu faire ça. Je ne me demande pas pourquoi je le sais, mais comment j'ai pu le faire. Comment j'ai pu, en un instant, basculer. Comment j'ai pu oublier, rayer d'un trait de plume, les 8 années que j'avais passées avec Bernard, avec la certitude que j'allais couler à ses côtés de longues années que j'allais vivre avec lui. Et puis, tout à coup, arrive l'inattendu. C'est peut-être le coup de foudre, c'est inattendu. J'en sais rien, c'est le rameau de Salzbourg, comme disait Stendhal, cette cristallisation, comme disait toujours Stendhal, peut-être. Je m'intéresse pas beaucoup à ça d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est comment on renonce, comment on change tout à coup sa vie, comment les paramètres ne sont plus les mêmes, comment la boussole n'indique plus la même direction. C'est ça qui est troublant.
Lorsque vous rencontrez Yves Saint-Laurent en 1958, vous avez 28 ans, il en a 22. De quoi est-ce que, pour vous, immédiatement, il est la promesse, Pierre Berger ?
C'est un joli mot, la promesse. Je ne savais pas qu'il était la promesse immédiatement. Mais immédiatement, j'ai été frappé, non pas que je sois un pygmalion, j'ai peut-être un esprit pygmalion, mais je ne l'ai pas été, ni dans le cas de Buffet, ni dans le cas de Saint-Laurent, parce que les deux, quand je les ai rencontrés, ils avaient commencé leur carrière et ils n'avaient pas besoin de moi. Donc Saint-Laurent, il venait de présenter sa collection, première collection chez Christian Dior, auquel il avait succédé au décès de ce dernier. En gros, les dés étaient jetés. Mais il avait tout ce que j'aime, tout ce qui probablement m'a attiré. Il avait 22 ans, mais c'est pas suffisant. Il avait cette timidité, cette fragilité. Il était mal à l'aise, très mal à l'aise dans la vie, très mal à l'aise avec les gens. Moi, je n'aime pas ceux qui sont arrogants, qui se méfiaient de rien et qui... Non, il était un garçon comme ça. Et puis, il avait le talent. Et je voyais bien que ce talent était en train, même s'il avait reçu un triomphe à sa première collection, je voyais bien, et puis la suite l'a prouvé, que ce talent ne demandait qu'à exister, qu'à sourdre, qu'à parvenir. Et c'est inconsciemment ça qui m'a attiré. Je n'avais pas prévu que 4 ans plus tard, il serait renvoyé de la maison Christian Dior et que je prendrais la tête d'une maison de couture qui porterait son nom et que je dirigerais cette maison de couture jusqu'au bout. Ça, je ne l'avais pas prévu. Mais peut-être qu'inconsciemment, j'y pensais. Peut-être qu'inconsciemment, je l'espérais. J'en sais rien. Ce que je sais, en tout cas, c'est que tous les marqueurs étaient en place. Tous les marqueurs étaient là pour que commence une vraie histoire.
La première fois que vous voyez Yves Saint-Laurent, et d'ailleurs vous ne le voyez pas vraiment, c'est aux obsèques de Dior.
Ah là, je ne vous vois pas du tout.
Et il ne vous voit pas davantage, on le sait, puisqu'il y a une photo qui a immortalisé ce premier moment où vous êtes dans la même foule sans le savoir. La deuxième fois, vous venez d'y faire allusion, Pierre Berger, c'est effectivement au défilé Dior, où vous arrivez en retard, ne connaissant rien à la mode, et sans rien attendre, finalement, puisque pour vous, la mode, c'est quelque chose d'assez lointain et peut-être même d'assez mineur à vos yeux. Et là, vous comprenez que quelque chose se joue, qui est de l'ordre du talent, de l'apparition d'une forme de beauté et peut-être aussi d'une forme d'art. Est-ce que si vous n'aviez pas eu cette révélation devant ce défilé d'Yves Saint-Laurent, ce premier choc, au fond, qui n'est pas passé par lui, mais par l'expression de son talent, la suite aurait eu lieu ? On ne refait pas l'histoire, évidemment.
Mais... On ne refait pas l'histoire, je ne peux pas vous dire. Mais il est évident que pour moi, la mode n'avait aucun intérêt. Je vais vous dire, nous étions, Bernard Buffet et moi, très liés avec Christian Dior. D'ailleurs, Bernard avait fait un portrait de Christian Dior. Et c'est à ce titre-là, d'ami de Christian Dior, d'ami personnel de Christian Dior, que nous fûmes invités à la première collection d'Yves. Mais nous n'avons jamais assisté à une collection de Christian Dior. Il ne nous avait d'ailleurs jamais invités parce qu'il avait compris que ça ne nous intéressait pas. Et nous, nous ne lui avions jamais demandé à voir une de ses collections. Quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça même très mal élevé. Pourquoi n'avons-nous pas demandé à Christian Dior, qui était un de nos amis, que nous voyions fréquemment, Christian, on aimerait bien voir ce que vous faites, votre collection. Bon, on ne l'avait pas fait. Et on ne l'avait pas fait parce que, et là je peux parler pour Bernard Buffet aussi, parce que nous considérions que la mode était même pas un art mineur, ce n'était pas du tout un art pour nous. Les arts n'étaient que majeurs, peinture, sculpture, musique, littérature au combien pour moi. Et la mode consistait à habiller des femmes riches, à mélanger des couleurs, du bleu et du vert. On n'en voyait pas beaucoup l'utilité. Et c'est bien après que j'ai compris l'extraordinaire importance du vêtement, dont Roland Barthes parle très bien d'ailleurs, même si je ne partage pas toujours son avis, mais il en parle très bien quand il dit que le vêtement est signifiant. Donc nous sommes arrivés à cette présentation parce que c'était un événement, faut bien comprendre ça aussi, c'était un événement international. Aucun des auditeurs, probablement ici, n'a le souvenir de ce qu'a été la mort de Christian Dior. C'est un événement national. C'est comme si la France s'était arrêtée de vivre. Les titres des journaux, la maison Dior va-t-elle demeurer, enfin, etc. Les obsèques de Christian Dior furent des obsèques pratiquement nationales. Il y a eu tellement de fleurs envoyées que le soir, la maison Dior a fait envoyer toutes ses fleurs place de l'Étoile. Et pratiquement toute la place de l'Étoile était remplie par les fleurs. Il faut comprendre ça. Quand le cercueil de Christian Dior est descendu dans le Var, où il a été entouré, il traversait des villes et des villages, où des femmes étaient là avec des fleurs à la main. C'était ça. C'est tout à fait inimaginable, ça, aujourd'hui. Donc, l'apparition d'un jeune homme, là aussi, les paramètres étaient là. 22 ans, inconnu. On le sort d'un chapeau comme un lapin. Et triomphe immédiat, et le monde entier dans la salle. Quand je dis le monde entier, c'est les représentants de tous les journaux du monde, les plus importants, Avenue Montaigne. Alors là, il aurait fallu être très très bête pour ne pas comprendre que quelque chose se jouait et que c'était une partie qui allait au-delà de la réussite d'une collection, bien au-delà de la réussite d'une collection. Et même si je ne comprenais rien à la mode, la réaction de la salle, les gens, les propos que j'entendais me faisaient comprendre qu'en effet, se jouait là et se gagnait une partie importante. Et de ce moment-là, évidemment, j'ai été obligé de considérer la mode d'une manière un peu différente, et l'auteur de cette collection, que je ne connaissais pas, d'une manière très particulière. Alors quand je suis allé après lui serrer la main, je lui ai dit bravo, félicitations, comme on dit, les bêtises de ce genre. J'en pensais pas beaucoup de choses, mais enfin bon. Et puis, 4 jours après, Marie-Louise Bousquet, qui était une amie de Bernard et de moi, mais une amie de Christian Dior, une amie de tout Paris, et qui représentait un magazine américain qui s'appelle toujours Harper's Bazaar, mais qui tenait un salon, ça aussi, ça n'existe plus, tous les jeudis, sa maison était ouverte, place du Palais Bourbon, et tout ce qui passait à Paris, d'important, un écrivain, un peintre, un musicien, un homme politique, venait le jeudi, place du Palais Bourbon. Donc Marie-Louise Bousquet décide de donner un dîner pour nous faire rencontrer Yves. Voilà. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
Est-ce que la relation que vous allez et que vous avez nouée avec Yves Saint-Laurent était une relation fusionnelle ? Je ne suis pas sûre que le mot vous plaise et vous agrée.
Le mot me plaît pas beaucoup, mais j'ai vu comment vous l'employez, alors je l'accepte. C'était une relation fusionnelle. Au fond, c'était une relation où chacun des deux a gardé ses acquis, ses actifs, et a essayé de l'apporter à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'étais pas Pygmalion, parce que je n'ai pas appris à Yves à dessiner, ni à travailler, ni à choisir des tissus. Mais j'ai compris que, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, que la fragilité d'Yves, que les difficultés d'Yves qu'il a rencontrées dans la vie, qu'il a rencontrées avec lui-même, c'est déjà ça qu'il faut dire. La première difficulté que rencontre un artiste, c'est de s'affronter, c'est de se confronter à lui-même. Autrement, ce n'est pas un artiste. Vous savez, les artistes, quels qu'ils soient, ils sont un peu mégalomanes, mais il y a deux sortes d'artistes. Il y a les mégalomanes heureux et les mégalomanes malheureux. Les heureux, il y en a beaucoup, beaucoup. Et tant mieux pour eux.
Mais est-ce qu'ils sont vraiment artistes pour vous, les mégalomanes heureux ?
Mais bien sûr que non. Un artiste est forcément malheureux. Il est forcément malheureux parce qu'il n'atteint jamais le but qu'il s'est fixé, parce qu'il doit se contenter de la perfection, parce que c'est tellement loin, loin de ce qu'il a rêvé, quoi qu'il fasse. En tout cas, dans le cas de Buffet que j'ai connu, à l'époque où je l'ai connu, c'était ça. Et Saint-Laurent, ça a été ça du début jusqu'à la fin.
Et à ça, malgré tout ce que vous avez pu lui apporter, vous ne pouviez rien.
On ne peut rien.
Et ça, c'est un sentiment d'impuissance qui rend extrêmement triste, Pierre Berger, qui a pu vous rendre extrêmement triste, désarmé, démuni.
C'est pas ça qui m'a rendu triste, c'est quand je n'ai pas pu empêcher Yves de s'adonner à certaines dérives. Je savais que le jour où il trouverait le moyen d'échapper à la vie de tous les jours, il prendrait le moyen, il le prendrait. Ça a été l'alcool et ça a été la drogue. Et là, vous parlez de tristesse, oui, parce que j'ai tout fait, comme on peut imaginer, et je suis sûr que certains qui m'écoutent en ce moment ont vécu la même expérience. On fait tout, on croit qu'on va gagner, mais finalement, ce sont des faux amis, l'alcool et la drogue, et ces faux amis sont plus forts que tout, et plus forts que soi.
Vous n'avez jamais eu la tentation de le suivre ?
Si, bonne question. J'ai eu la tentation de suivre.
Pour rester avec lui ?
Pour rester bien avec lui, pour être près de lui, pour comprendre son univers, pour parler la même langue que lui. Je crois que tout le monde a eu la tentation de suivre. Alors moi, j'ai pris de la cocaïne un jour à New York avec Yves. J'ai passé une nuit entière à parler, debout, et j'ai décidé que je n'en recommencerai jamais. Que je ne voulais pas être tributaire de ces trucs-là. Voilà. Et ça a été vite réglé. Vous savez, les addicts, quelle que soit l'addiction, ont tous des trucs, ils sont menteurs, ils ont tous les défauts. Mais les défauts pour satisfaire leur addiction. Et ça ne m'étonne pas. Vous savez, Yves m'a dit un jour, c'était à Marrakech, « Ah, j'ai pris la décision de ne plus boire. Ah, tu vas voir, je vais boire un whisky par jour, mais c'est toi qui vas me le donner. » Comment c'est moi qui vais te le donner ? Oui, oui, parce que si c'est toi, ça a l'air d'une permission, ça sera très bien. Je savais pertinemment qu'il n'en serait rien. J'ai joué le jeu pendant 2 ou 3 jours, je lui ai donné son whisky du soir. Puis un beau jour, il m'en a demandé un deuxième, et puis c'était fini.
Mais l'addiction, Pierre Berger, est-ce que l'addiction de Yves Saint-Laurent, elle n'était pas aussi une addiction vis-à-vis de vous ? Vous avez écrit un très beau livre, après sa mort, qui s'appelle « Lettres à Yves », où vous dites que vous auriez dû le sevrer de vous, qu'il était dépendant de vous, et que vous n'avez pas fait en sorte qu'il soit sevré de vous.
Oui, c'est vrai. Bah, il était addict à moi aussi, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on dit toujours qu'on élève bien les enfants ou mal, on les élève toujours mal. Je peux dire ça de ma relation à Yves. Yves était évidemment dépendant, mais il aimait ça, il avait besoin de ça. Et je ne vais pas vous dire que ça ne me déplaisait. C'est toujours gratifiant. C'est toujours... ça rend toujours quelqu'un heureux de voir l'autre, de ne pas pouvoir se passer de lui et de faire les choses pour l'autre. Remplir un carnet de chèques, un chèque parce qu'il n'est pas capable de le faire. Mais à force de faire ça, au lieu de lui apprendre à le faire... Mais à force de faire les choses à sa place, finalement, vous l'empêchez de les faire. C'est aussi ça, la vérité.
Et votre dépendance à vous, d'Yves Saint-Laurent, Pierre Berger ?
Ben, je ne la nie pas. Voilà.
Est-ce que la mort d'Yves Saint-Laurent a acté la séparation ?
Non.
Pierre Berger ?
Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. La mort d'Yves Saint-Laurent, vous savez, je la savais, puisqu'on m'avait annoncé qu'il avait un cancer du cerveau, un glioblastome, et qu'il était incurable. Mais on s'était trompé sur la durée. On m'avait dit que ça durait quelques mois, 3, 4, 5 mois, et ça a duré presque un an. Puis la fin, j'avais bien compris que c'était la fin. Donc, il y a un moment donné, et là encore, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent et qui ont vécu la même chose. J'ai vécu la même chose 2 fois, avec Yves, avec ma mère, qui est morte l'année dernière, à 107 ans. Mais elle voulait mourir. Elle était une farouche adepte de l'euthanasie. Mais elle s'est fait rattraper par la maladie, elle ne pouvait plus rien faire. C'est d'ailleurs ce qu'elle m'a dit, si je pouvais le faire, il y a longtemps que je me serais suicidé. Tout ça pour dire que il y a un moment donné où on souhaite la mort des gens. Voilà. Moi, j'ai souhaité la mort de ma mère. Et les derniers mois, j'ai souhaité la mort d'Yves. Parce que si on aime les gens, on ne peut pas les voir dans un état qui précède la mort, qui est un état misérable, pitoyable. Et j'espère que... Ou j'espère pas, parce que faut pas espérer. Mais j'ai tellement espéré que la France finirait par permettre l'euthanasie. Mais pas l'euthanasie comme on en parle. Je veux dire, même moi, le suicide assisté, je pense que je devrais avoir le droit de me suicider. Et pas seulement de me jeter par la fenêtre, mais d'aller où on veut, dans un hôpital, et peut dire « je veux me suicider », puis voilà. Ça fait partie des droits des gens, ça. En tout cas, ça devrait.
J'espère le plus tard possible, Pierre Berger.
Oui, ça, on ne peut pas dire. Moi aussi, j'espère. J'espère vivre très longtemps.
Mais je vous le souhaite.
Ma mère avait vécu jusqu'à 108 ans. Elle n'avait pas de myopathie. Moi, j'ai une myopathie qui m'invalide beaucoup, et davantage chaque jour, d'ailleurs. Mais on ne va pas parler de ça. Mais si les choses vont mal, j'espère vraiment, vraiment. Moi, vous savez, je ne crois à rien. Je pense qu'après la mort, on n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi on serait différent d'un chien ou d'un chat. Il n'y a rien. Alors, comme je ne crois à rien, je ne redoute rien du tout. J'ai été très heureux sur cette terre.
Merci beaucoup, Pierre Berger.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Joël Gaillot avec Pierre Berger. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon. Prise de son, Arthur Gerbeau, Loïc Duros. Réalisation, Anne Pérez. Coordination, Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.